OK, on va parler d'un sujet ce soir. Le sujet, la semaine passée, d'être caché, était un sujet, on peut dire, c'était l'avion fort. On a parlé de les fois qu'on peut cacher nos péchés, on a parlé d'être caché en Christ, on a parlé d'être caché dans un bon sens et d'être caché dans un mauvais sens. Et c'était rigolo comment le Seigneur a pris un sujet tellement sérieux dans une façon qui est abordable, acceptable. Et des fois, on peut prendre ça, on peut digérer ça plus facilement. Si c'est trop, trop sérieux, le gens va dire, oh là là. Et si c'est trop léger, on va dire, est-ce que c'est une blague? Non. Mais on va essayer d'aborder les choses avec révérence devant Dieu et en même temps, il y a une place pour tout. Ce soir, je propose de parler d'un autre sujet tellement, on peut dire, c'est sobre, ce sujet, mais c'est partie de la Bible, c'est partie de la vie. Romains chapitre 5, verset 12. 5, verset 12 du livre de Romains. C'est pourquoi, comme par un homme, seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'était étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. En bref, Genèse chapitre 2, Adam, si tu manges de le fruit de l'arbre de la connaissance de bien et mal, le jour que tu manges ça est le jour où tu vas mourir. C'est sobre. Ça, c'est Genèse chapitre 2, verset 17. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre suivant? Ève était séduite par le serpent, elle a mangé, elle a regardé, elle a dit, oh, c'est bon. Ah, oh, on peut avoir les connaissances comme Dieu. Elle a pris, elle a mangé, elle a donné son mari, il a mangé. On est tous dans cette situation aujourd'hui. La mort, grâce, on peut dire, ou à cause de ce péché. Parce que ce n'est pas un homme que le péché est entré dans le monde, et pas un homme suite le péché. La conséquence, la mort est entrée dans le monde. Avant ça, c'était comme un homme qui n'a jamais vu la pluie quand Dieu a dit mourir. Adam n'a aucune idée quel est le concept de mourir parce que le mot existe, mais l'idée derrière, le concept derrière de ça n'existait pas pour lui. Et finalement, il a compris la signification de la mort. Et nous avons tous vécu nos vies comme c'est normal. Mais ce n'est pas normal, la mort. Et ce n'était jamais le plan de Dieu. Et en plus, ce n'était pas juste Adam et Ève et nous maintenant. C'est toute la création. Parce que comme je dis dimanche matin, le moment où ils ont goûté de cette fruit et le moment que la mort commence à agir dans le corps, et nous pouvons voir ça, c'est invisible des fois, mais c'est visible aussi. On peut voir la mort, on peut voir un animal. Je vois un hérisson aujourd'hui en train de courir sur la route à Meignier, et je dis, oh. Vas-y, allez, vite, parce que ma voiture est en train d'approcher et les autres voitures ont approché aussi, je ne veux pas voir. Il a passé, heureusement, mais pas tous les hérissons passent dans ça. Et des fois, on voit quelqu'un mort, ou un animal mort, on peut un arbre mort, on peut voir les plantes mortes. Si vous êtes un très bon jardinier, vous voyez les plantes, mais dans un moment précis, c'est mort. Si vous prenez les fleurs dans la maison et tu aimes les fleurs, c'est bien. Mais après un certain moment, toutes les fleurs meurent. Et on dit, waouh, c'est la fin de quelque chose. Mais ce soir, je vais parler brièvement, dans le temps que nous avons, sur ce sujet qui commence en Genèse chapitre 3 et a fini finalement en Apocalypse chapitre 21. Donc toute la Bible, on est la présence de la mort, les conséquences de ça. Et la première chose, on va dire, point numéro 1, c'est une conséquence d'une mauvaise décision de l'homme. C'est en fait l'idée de péché est ça. Tout l'homme a péché et déprivé de la gloire de Dieu. Et l'idée de le mot péché est le mot amasia en grec. Cette idée est ça. Je vois la cible ici. Et moi, j'ai un arc avec des flèches. Et j'essaie de cibler pour ça. Et je vais tirer. Ça, c'est Dieu. La cible, c'est la gloire de Dieu. Et la flèche, c'est l'homme. Mais des fois, la flèche, si on peut dire, l'homme décide de faire quelque chose d'autre. Alors, je vais aller dans cette direction. Et ça, c'est un acte de libérer de l'homme en sachant que Dieu dit quelque chose. Et l'homme, toujours de chercher pour quelque chose d'autre. C'est pas, il n'a pas juste arrivé, mais il est un peu en bas ou un peu en haut. Non, c'est de complètement dans l'autre direction. On peut voir les conséquences de ça maintenant, dans nos vies. Et la mort est maintenant le suite de ça. Le fin de la péché est la mort. Le salaire de la péché est la mort. Et le gens va mourir de ça. Et nous payons. On est en train de subir les conséquences de ça, mais on vit ça aussi. Donc, la première chose est Dieu. Quand les gens posent la question, ça c'est une question souvent posée dans l'évangélisation, quand nous avons quelqu'un devant nous. Mais pourquoi que je dois croire dans un Dieu qui laisse l'amour exister, la souffrance? Et c'est une question souvent, et on peut répondre à la question, c'était jamais le plan de Dieu. Son idéal était quelque chose infiniment plus glorieux. Nous avons accepté de vivre pour quelque chose moins. Dieu a un plan. Et toujours, juste une application. Genèse chapitre 2, verset 17 est une instruction et un avertissement. Mais l'homme toujours cherche à aller à côté. C'est toujours marche plus sur la pelouse, parce que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Marche sur la pelouse. Oui, mais rien, personne n'est là. Je peux marcher si je veux, c'est plus direct. Oui, mais le panneau dit, marche pas. Mais l'homme, on est attiré de faire le contraire. Et les conséquences sont invisibles, mais les conséquences sont toujours là. Et si Dieu a dit quelque chose, il a dit ça pour une raison. Pour notre bien, pas parce qu'il est quelqu'un qui est, on dit en anglais, a killjoy, quelqu'un qui ne veut pas que les gens aient la joie. Non, il a dit c'est pour une raison. Donc, conséquence. Maintenant, le deuxième point. Il est trois types de la mort. Trois types. Le premier, on peut voir en Romains 1 Roi chapitre 2, verset 2. 1 Roi chapitre 2, verset 2. C'est David en train de parler avec son fils Solomon juste avant qu'il meure. Verset 1, il discerne qu'il va mourir un jour. Verset 2, il dit le suivant. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Toute la terre va passer par ce chemin. La mort physique, on est tous en train de... C'est un peu déprimant. Mais on est tous en train de mourir petit par petit, cellule par cellule. Fais tout ce que vous voulez. Bois, mange, fais le sport, prends les vitamines, mais le corps est en train de âger. Et les conséquences, on peut voir quelque chose, la détérioration dans notre corps. Pourquoi que nous avons des hôpitaux? Pourquoi que nous avons des médecins? Parce que c'est de gérer, essayer de résoudre les problèmes physiques, mentaux, etc. Mais c'est parce qu'on est dans un monde qui n'est pas parfait et la mort est en train d'agir et opérer dans notre corps. C'est la corruption. Tu prends quelque chose, ça va mourir un jour. Quelqu'un est né, cette personne va mourir. Chacun de nous, il y a des exceptions, évidemment, mais la normalité, chacun de nous, on est né, et on va mourir. On peut pas marcher à côté de ça. L'homme est en train de, avec la science, en train de découvrir si c'est possible d'avoir immortalité. Bonne chance avec ça, parce que personne n'a arrivé de trouver ça pour le moment. On va passer par le mot physique. Et c'est, il faut accepter ça. Qu'un jour, on va être plus là. Il y a une bonne nouvelle, mais on va continuer avec le deuxième. Et ça, c'est plus sérieux que le mort physique. Il y a une mort spirituelle. Et ça, c'est qu'est-ce que se passe le moment que Adam et Ève, ils ont mangé en Genèse chapitre 3. C'est pourquoi ils ont dit, ah, on est nus. Parce que tout de suite, cette connexion avec Dieu était coupée et ça s'appelle séparation, ça s'appelle la mort spirituelle. Et donc, on peut voir, par exemple, Éphésiens chapitre 2. Et je vais lire le verset, Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. Ça veut dire, il est en train de parler ici, en Éphésiens chapitre 2, verset 1, verset 5, Colossiens 2, 13, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il y a quatre versets qui parlent de ça. On était mort physiquement, spirituellement. On était, on pense, physiquement dans cette non-bios life, la vie de bios, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant. Mon cœur bat, mais j'étais séparé de Dieu. Donc j'étais comme un zombie, un mort vivant, en train de marcher sur la terre, mais il n'a pas la vie avec Dieu. Ma vie était vide. Vanité, je récoltais la vanité, j'ai vécu dans un système qui opérait avec les gens qui sont morts. Ça s'appelle, est-ce que c'est Psaume 30? 38, la congrégation de la mort. Chacun dans un assemblée qui sont morts. C'est quel verset? Ok. Merci. Donc, cette idée qu'on était dans un assemblée et on peut regarder les gens et dire, ils sont morts aussi comme moi, spirituellement. On dit en anglais, the lights are on, but there's no one home. La lumière est là, mais personne n'est dans la maison. On fait ça des fois, d'éviter les voleurs. On tire le rideau et on laisse la lumière dans la salle et dit, OK, quelqu'un est là de télévision. Mes parents, ils ont fait ça toujours, en télévision. Je ne sais pas qu'est-ce que ça coûte avec l'électricité, mais la lumière et tout. Mais, c'est des fois, on voit quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, la personne en train de marcher, mais il y a quelque chose pas en train de passer ici. Et ça, on peut dire, est peut-être une illustration de le fait que notre cœur bat, mais connexion avec Dieu, rien. Mais, 21:15? Proverbe 21:15, la congrégation, l'assemblée des morts, Wow! Je peux être dans cette assemblée de gens qui sont morts spirituellement. Et je peux tourner et voir un fou de gens et je dis, wow! Mais ça, c'est déjà la mauvaise nouvelle. Mais pas le plus pire. Et le plus pire est ça. Et après ça, on va améliorer, on peut dire. Le négatif, la mauvaise nouvelle et les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, il n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça, c'est une blague. C'est une blague, on dit en Angleterre. Quelle est la bonne nouvelle? Il n'est pas une mauvaise nouvelle. Le troisième, sérieusement maintenant. Il y a un mot qui s'appelle le deuxième ou le second mot. La seconde mot. Le Darby et le second utilisent cette exacte expression en Apocalypse 20, verset 14 et Apocalypse 21, verset 8. La définition, des fois la Bible explique quelque chose tellement précis. Le second mot est quand quelqu'un entre dans le lac de feu pour éternité, c'est une séparation éternelle. En fait, c'est une confirmation de le fait qu'ils ont décidé de rester mort spirituellement pour toute la vie et ils refusent le salut en Jésus-Christ. C'était une séparation finale. Et c'est pourquoi les gens pleurent dans un enterrement. S'il ne connaît pas Christ, il n'est rien. Il n'est pas une joie parce qu'il n'est pas une espérance. J'étais dans le deux. Qu'est-ce qu'on dit? Une cérémonie pour un croyant? Plusieurs en fait. Et des cérémonies pour ceux qui ne sont pas. Et j'aime pas d'aller dans les cérémonies comme ça, mais je préfère que c'est un croyant parce que je sais que je vais voir cette personne de nouveau un jour. Mais pour le non-croyant, il n'y a rien. Et les gens, ils n'ont aucun espoir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on va gérer ça? Et ça, c'est suite maintenant de le troisième point. Hébreux chapitre 2, verset 14. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je veux passer et finir cette partie et arriver à quelque chose un peu plus positif. Le diable, en verset 14 de Hébreux chapitre 2, il avait la puissance de la mort. Il était en contrôle. Et verset 15, on était délivré, ça c'est de bonnes nouvelles, de la crainte de la mort. Parce que toute l'humanité est sous la servitude de cette crainte toute la longueur de ses vies. Tu vois, en France et en Suisse, et je crois en Espagne aussi, que les tombes et les sarcophagus, le cimetière est actuellement dehors de la ville. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas voir les gens morts dans la ville. Je note ça souvent. En Angleterre, c'est un peu différent. Mais je vois que les cimetières sont séparés avec un mur. Il y a un à Meunier, je sais, il y a un aussi. Je veux plusieurs. Il y a une séparation parce que les gens enterrent quelqu'un. Et après ça, c'est une séparation peut-être de visiter le tombeau. Mais cette personne n'est plus dans la congrégation de ceux qui sont physiquement sur la terre. On ne peut pas parler avec eux, ils sont ailleurs. Et chacun subit cette crainte tout le long de ses vies. Et c'est mal de gérer ça. Certains rigolent, ils font des blagues, ils essayent de gérer cette crainte avec légèreté. Certains sont tellement crevés, tellement sur ça qu'ils ont une crainte de mourir. Certains boivent, certains prennent des drogues, certains essayent de faire tout pour, qu'est-ce que le mot, subliminer, d'avoir une sublimation, de ne pas penser à ça, de penser à d'autres choses. Moi, après, j'étais en enterrement quand j'étais jeune, d'un membre de ma famille, j'ai voulu aller tout de suite au cinéma et regarder quelque chose de plus rigolo pour s'amuser, parce que j'ai tous ces pensées noires dans ma tête. Donc, le diable utilise tout pour contrôler les gens sur cet esclavage. C'est un joug d'esclavage pour peser sur les épaules et les gens ne peuvent pas gérer ça. Un jour, j'étais dans la voiture avec mes grands-parents et ma mère et ma soeur et je ne sais pas pourquoi que je dis ça, mais je dis, un jour, grand-mère va mourir et grand-père aussi et après... Mon père va mourir après sa mère. C'était un peu bizarre, mais j'étais un enfant. Et ma grand-mère dit, arrête, c'est trop triste, je ne veux pas écouter ça. C'est vrai, mais c'était à révéler un problème dans nos cœurs qu'on ne peut pas supporter ou gérer le fait que l'amour existe dans nos vies. On voit les gens, on ne sait pas comment. Des fois, on fait cette très bonne... langage pour essayer de dire quelque chose, mais pas de dire. Vous saviez qu'est-ce que je voudrais dire, parce qu'on dit les condoléances sincères et les gens qui disent que cette personne repose, ils sont en paix, mais ils sont morts. Il faut être clair aussi, on doit être gentil et poli et respectueux. Mais la réalité pour nos vies, cette personne est maintenant brûlée, ou maintenant sur la terre. Ça, c'est la réalité de la vie. Et les gens doivent... C'est bien de confronter ça avec la crainte de Dieu. Ça, c'est le bon équilibre, en fait. Mais de voir le diable utilise ça, et les films montrent ça, toute cette industrie de médias, révèle l'amour comme le dernier mot. Mais personne, le monde n'est pas écrit pour gérer ça parce que ce n'était pas normal. Et on va voir très bientôt ce que je voudrais dire. Point numéro 4. Point numéro 4. Le diable, il a le pouvoir de tuer les gens. Jean 10:10, il est le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Ça veut dire qu'il avait une autorité déléguée à lui grâce au fait qu'il a enlevé. En fait, c'était l'homme qui a donné le pouvoir par la désobéissance. Et maintenant, le diable peut tuer. Il a la puissance. Donc, c'est bien pour nous d'être pas trop dans le sens que le diable est partout dans les placards, dans le frigo. Il est là parce que j'ai un mal au ventre. Non, le diable est là, il a une puissance. Il est un ange déchu, il était dans la gloire de Dieu, Lucifer. Il a toujours la puissance sur ce monde. Et il peut contrôler les choses. Et évidemment, il est en train de faire ça. Regarde les nouvelles, regarde d'or. On peut voir clairement. Il avait donné un certain limite dans ses pouvoirs. Il ne peut pas juste faire des choses semblant. Dieu n'a pas donné ça. Il a donné un certain espace, un certain temps, et le diable évidemment utilise ça. Il a tué la famille de Job. Tous les fils et les filles. Job chapitre 1. Il a utilisé Cain de tuer son fils Abel. Genèse chapitre 4. Et après, nous avons un commentaire en 1 Jean chapitre 3, verset 12, qui est dit, il est de le malin. Ça veut dire Cain était influencé par le diable. Ça veut dire le meurtre vient du diable. C'est pas de Dieu. C'est du diable. Il est un meurtrier depuis le commencement, en Jean chapitre 8, verset 44. Il monte, il séduit et tout. C'est le meurtre. Rappelons que quand David a demandé à Joab d'organiser les circonstances pour Uri d'être tué. D'être tué. Il n'avait pas physiquement tué Uri, mais il a organisé les circonstances que quelqu'un d'autre fait. Et Dieu a dit, tu as tué ton ami. tu as tué, tu as pris sa femme et tu as tué l'homme. Ça veut dire que Dieu voit qui est le vrai meurtrier. Donc, quelqu'un qui peut organiser une assassination maintenant, mais Dieu voit qui est vraiment le responsable. Pas juste les personnes qui tirent, mais aussi les personnes qui sont derrière, qui organisent tout. Ça veut dire que la justice est là. Un jour, la justice soit faite, en fait, par Dieu. Donc, voir comment il planifie les choses pour tuer les gens. Meurtre, dans les commandements, il faut juste dire ça, les commandements, en Exode, les commandements disent de ne pas tuer. Mais, en fait, le mot est meurtre, pas juste tuer, parce que, oui, on peut tuer quelqu'un dans une guerre. On peut tuer quelqu'un par accident. Ça, c'est des choses qui peuvent passer. Élie, en Lévitique, nous avons des précisions que c'est possible que quelqu'un par accident peut être tué. Mais Jésus a défini ça en Matthieu. Il a dit meurtre. Le mot meurtre, ça veut dire préméditer, planer de tuer quelqu'un. Et le diable est derrière de tout ça. Il veut faire ça. Dieu n'est pas du tout d'accord avec ça. Dieu peut faire certaines choses, mais ici, le diable est derrière de ces choses. Il est derrière du suicide. Il faut savoir ça. Qui plante les semences dans la tête? C'est le diable. C'est lui qui veut tuer l'homme parce que pour lui, l'homme a été créé dans l'image de Dieu et c'est une offense pour le diable de voir que nous apportons l'image de Dieu. C'était quelque chose, on peut dire abominable, c'est quelque chose, un horreur pour lui de voir l'image de Dieu en chacun de nous. Et c'est horrible pour lui. Donc il veut tuer l'homme. Il veut tuer les chrétiens. Il veut tuer les non-croyants aussi. Donc on peut faire une liste. Guerre, suicide, infanticide de tuer des enfants, infanticide, Hérode a fait ça, Pharaon a fait ça, génocide, Aman voulait faire ça avec les Juifs en Esther, régicide, Absalom a essayé de faire ça, régicide de tuer un roi, il a essayé de faire ça avec son père, Absalom de tuer David. Régicide. Fratricide, ça c'est dit de tuer les frères. Absalom a tué son demi-frère, Amon, pour le viol de sa sœur en fait. Tout ça, c'est meurtre. En plus, on va ajouter un qui n'est pas dans la Bible, mais on peut voir le principe. Abortion, avortement. Certains contextes exactement, je ne suis pas expert, donc je ne propose pas d'aller dans ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Dieu veut la vie ou est-ce qu'il veut la mort? Et maintenant, on passe au prochain point. Le Seigneur a le droit. Il est le vrai roi, le vrai juste qui a le droit de prendre la vie parce qu'il a donné la vie. Genèse chapitre 6. Le déluge est éradiqué, enlevé toutes les personnes vivantes. Dieu était directement dans ça. Et c'est un jugement. Sodome et Gomorrah, Genèse chapitre 19. Pour tuer les... Wow! Une ville entièrement consacrée pour des abominations, Dieu a fait. Donc Dieu, dans ce cas... Pour la protection des autres, c'est la mort. Dieu aussi, on peut dire, le Seigneur a le droit de prendre la vie des non-croyants. On a déjà noté ça. Et les croyants. Ça veut dire le péché qui amène à la mort. En 1 Jean chapitre 5 ou 4. Donc, c'est vers chapitre 5. De amener à la mort, il dit, prie pas pour ça, parce que c'est quelque chose qui amène à la mort. Ça veut dire que Dieu dit, ok, c'est la dernière discipline et Quelqu'un a passé la ligne, traversé la ligne, c'est trop tard maintenant. Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui offraient le feu étranger dans le tabernacle en Lévitique 10. Les Corinthiens qui prient la Sainte Cène dans une manière qui est disrespectueuse. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Paul a dit, certains dorment, ça veut dire ils sont morts, parce qu'ils ne sont pas respectueux, ils ne sont pas discernés que c'est le corps de Seigneur qui prie. Donc, voilà comment on peut dire, ouais, c'est l'Ancien Testament, mais Ananias et Sapphira, Actes chapitre 5, Corinthiens chapitre 11, avec certains croyants qui sont disrespectueux avec le Seigneur dit, ok, vous avez passé la ligne, traversé la ligne, c'est trop tard maintenant, j'ai déjà averti plusieurs fois, et pour la protection des autres, je vais tracer ça. Donc, le Seigneur n'est pas un méchant, il fait ces choses comme précis. Il fait ça parce qu'il a une très bonne raison. Et lui seul, il a le droit de prendre la vie. Lui seul, il a donné la vie, lui seul, il enlève la vie. Wow. Et maintenant, la bonne nouvelle. Nous sommes maintenant séparés de ce système d'esclavage, de crainte de la mort. On est séparés de ça. Le moment où on a accepté Christ, on est passé de cette mort spirituelle de la vie. Le mot en grec, metabeno, est une indication, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 14. Je vais tourner là et on va lire cette verset. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Metabeno. Un changement de condition, un changement de place. Changement de position. Changement d'état. Je transforme dans un autre être. Ça, on ne va pas faire et je ne peux pas faire. Mais d'avoir un autre état. Donc ici, c'était de deux. Changement de position. J'étais dans le royaume de ténèbres. Changement maintenant passé à la vie. Maintenant, je suis dans la congrégation, l'assemblée de la vie spirituelle et je vais vivre pour l'éternité. Changement d'état. Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 5. J'étais mort. J'étais aucune connexion avec Dieu. Mon esprit était éteint. Maintenant, je suis dans la plénitude de la vie. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je peux penser avec Dieu. Je peux connecter avec Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai un nouveau cœur. J'ai maintenant la possibilité de penser avec Dieu et de communiquer dans un langage spirituel pour édifier les autres. Ici, la religion, bla, 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 fait tout pour Dieu, voilà, avec aucune possibilité d'être sûr on va sauver. Ici, vous êtes déjà sauvés et nous avons cette assurance. Oui, il est quelque chose qui peut passer. On va physiquement mourir. Oui. Mais Jean chapitre 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne va pas mourir, il va entrer dans la vie. Et s'il meurt physiquement, il a la vie spirituelle, la vie éternelle. » On a parlé de ça dimanche. Et on a dit « la vie zoé, la vie bios qui va finir, ça c'est le physique, la condition physique. » On est déjà cette condition, le cœur bat, etc. Mais il y a quelque chose qui va passer en 1 Corinthiens chapitre 15. Un jour, je vois un corps glorifié. Le bios va finir. Cette vie naturelle va finir un jour. Je vais perdre ce corps. Limité, physiquement. Je ne peux pas souffrir, je ne peux pas avoir les maladies, je ne peux pas avoir les blessures, je peux tomber malade. Et je vais passer d'une autre vie avec un corps glorifié qui n'a pas les mêmes limites. Je ne vais jamais âger, jamais être vieux, jamais être triste, jamais pécher. Ça, c'est que je passe maintenant. Et maintenant, nous sommes en transition comme le papillon en train de donner le préparation cachée. On est maintenant en train d'attendre pour le jour glorieux qu'on va avoir ce corps glorieux avec lui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, physiquement, peut-être je vais mourir si je ne suis pas dans la génération d'enlèvement. Mais je suis vivant spirituellement et ça ne va jamais changer. Le seul changement est une transformation. Je vais perdre mon ancienne nature. Ce corps qui est connecté avec ça va. Mais je vais avoir un remplacement qui est update, mise à jour, 1.3. Maintenant, c'est le corps glorifié. Je vais avoir ça avec un esprit et mon âme va jamais arrêter parce que mon âme est éternelle. Mon âme est moi. C'est court et pas moi. Mon âme. Je suis une âme et j'ai un corps. Pas je suis un corps et que j'ai une âme. C'est opposé. À l'envers. Je vais vivre pour l'éternité. Maintenant, spirituellement. Avec aucune cessation, avec aucune fin. Il est des exceptions. Et je vais proposer de parler de ça. Enoch. De maintenant des exceptions. Point numéro 7. Enoch, Genèse chapitre 5, en train de marcher avec Dieu de 365 années. Donc, il arrive de cette dernière année et il marche avec le Seigneur. Le Seigneur dit, viens avec moi. Et personne ne peut le trouver. Sa femme a cherché, elle a contacté la police, ils ont fait un... Est-ce que vous avez vu cet homme, les panneaux partout? Personne. Pourquoi? Parce qu'il était pris. Premier enlèvement. Et pas le dernier non plus. Deuxième, Élie. Deux Rois chapitre 2. Pris dans un chariot. Whip, chariot de Dieu. Et il est enlevé. Et Élias, son fils c'était Élias, je ne me trompe pas, Élie, Élias, est en train de regarder. C'est le prophète qui va remplacer Élie, son disciple. Il regarde et il voit lui en train d'être enlevé, comme ça. Il avait le privilège de voir un enlèvement. Je pense que c'était rapide. Mais il a vu avec ses yeux. Il a vu comme ça. Élie enlevé. Il n'a jamais mouru. Il n'a jamais mort. Jamais mort. Merci beaucoup. Le français, c'est bel, hein? Troisième. Et ça, c'est le plus bizarre. Lazare, chapitre 11 de Jean. L'évangile de Jean. Il était mort dans le tombeau et Jésus arrive et dit, Lazare, sors, out now, sors. Le tombeau était enlevé, le pierre enlevé, bougé et il sort. Il sort vivant. Il était physiquement mort. Ce n'était pas une résurrection comme Jésus, mais il a reçu la vie de nouveau. Et après, il va mourir de nouveau parce que physiquement, il avait un corps comme nous, qui va âger, qui va avoir la maladie. Donc, il était mort physiquement deux fois. En plus, il était déjà mort spirituellement parce qu'il était comme nous, dans un moment né avec un ancien nature pécheresse, donc aucune connexion avec Dieu, donc comme nous tous, héritiers de la malédiction d'Adam. Mais il était sauvé, régénéré, reçu le Saint-Esprit et il était spirituellement vivant. Ça veut dire il était mort spirituellement une fois et il était mort physiquement deux fois. Bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est des exceptions. Donc, mort deux fois. Donc, Hébreux chapitre 9 parle qu'on va tous mourir une fois et après le jugement. Mais il était l'exception. Il est toujours une exception. Et la dernière exception est la génération dans l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ceux qui sont vivants vont être enlevés avec ceux qui sont morts. Ça veut dire les vivants, comme ça, enlevés. En nos corps, tous vont être enlevés. Je pense que c'est peut-être de spéculation, donc c'est mon avis. Vêtements, tous mes biens, porte-monnaie, peut-être les lunettes, et en plus, les dents qui sont faux. Quelqu'un qui a des organes aussi artificiels, pense à ça, c'est intéressant. Oui, exactement, les prothèses. C'est intéressant de penser ça, parce que ça, c'est naturel. Exactement. Exactement. C'est mon avis. C'est pas que la Bible dit. Mais il faut savoir que c'est possible que ce que le Seigneur prend est organique. C'est juste moi, organique, pas des attachements. Donc, au revoir. Intéressant. Et maintenant, le huitième point. Ouf, le temps. Le huitième point. Jean chapitre 11, verset 35 et 38. Jean chapitre 11, c'est pardon, c'est 33 et 38. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il était en colère. Le mot en grec parle de quelqu'un qui était tellement en colère, furieux, pas avec Lazare, pas avec Marie, pas avec Marthe, mais avec la mort. Furieux avec le diable et furieux que cette condition de voir les gens séparés. Des fois, les gens, nous avons cette fausse idée que Dieu est d'accord avec ce système, le processus. Non, il n'est pas. Il est furieux que la mort et la souffrance et les deuils qui passent. Il est le consolateur, il nous console, il est là pour nous aider, mais la mort est inacceptable pour lui. Et c'est pourquoi il était tellement troublé. Parce que c'est pas troublé, c'est en anglais. Mais il avait cette telle colère. Littéralement, le grec est, c'est comme, on a un taureau, et le taureau, tu vois, comme ça. Et l'air saute ici, tu vois. C'est quelqu'un expression, c'est visuellement, c'est ça. Il était tellement furieux. Il a exprimé cette fureur que la mort a pris la vie. Et quand il voit Lazare aussi, c'est intéressant parce qu'en deux minutes, il va ressusciter Lazare, mais il était tellement, il veut dire quelque chose à nous. Il n'accepte pas la mort. Pour lui, c'est inacceptable. C'est pas normal. C'est pas partie de la vie. C'est partie de la chute. Mais un jour, ça va finir. Et ça, c'est le dernier point. Un jour, ça va finir. Ésaïe chapitre 35, verset 10. Ça, c'est le premier verse. La douleur et les gémissements, c'est enfouillant. Sorrow and sighing will flee away. Wow! La souffrance va passer. En Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Non, 14. Oui, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Donc, c'est fini maintenant. La mort était mise dans le flaque de feu. Ça, c'est un peu bizarre, je pense. Et verset 4 de le chapitre suivant. Et Dieu essuiera toute l'âme de les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Ça, c'est un jour. Le millénium est une période de 1000 ans, mais la mort va exister, mais va être beaucoup moins. Mais le moment où on entre en éternité, et le Jérusalem, le ville saint, descendre du ciel, et qu'il n'y a plus une lumière de soleil ni lune, et c'est la lumière de Jésus-Christ par sa visage. Et il n'y a pas de porte pour fermer Jérusalem, et Jérusalem va être ouverte jour et nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchants, pas besoin de protection. Il faut savoir plus de mort, plus de souffrance, plus de deuil, plus de larmes. Ça va être le dernier mot de Dieu. Il a dit, la mort existait pour un certain temps, mais pour l'éternité, plus. Et ça, c'est le dernier mot de Dieu. Un jour, ça va finir. Et avec cette consolation, nous pouvons, en face de la mort, peut dire, un jour, ça va finir. C'est fini dans un jour précis. Ça, c'est un encouragement pour nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis cette soirée maintenant, le suite. Et merci encore pour ta grande grâce. Et on est juste privilégié d'être les enfants de Dieu qui écoutent ta parole et c'est toi qui nous enseignes. Merci pour ta grande grâce. Merci pour l'enseignement dans nos cœurs, par les circonstances de la vie aussi. Aide-nous de comprendre vraiment la profondeur de ce message. Merci. Amen.